Les Jeudis de l'économie, Radio Rythme Bleu.
Bonjour à tous et bienvenue dans les Jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu. 264 milliards de francs sur 5 ans, c'est le plan de relance annoncé par le Premier ministre la semaine dernière. Ce plan est-il suffisant? Prend-il en compte tous les besoins de la Nouvelle-Calédonie? Quelles sont les réactions des acteurs socio-économiques? C'est ce que nous allons voir dans cette émission avec nos quatre invités. La présidente du MEDEF, Mimsy Delay, la vice-présidente de la FINC, Marie-Amélie Molia, Jean-Marc Burette, le secrétaire général de l'USOINC et le vice-président de la COGETRA, Tony Dupré. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors évidemment, on va essayer de voir le plus d'aspects possibles de ce plan de relance qui est quand même assez conséquent. Et peut-être pour rentrer dans le vif du sujet, d'abord rappeler que c'est une proposition puisque ce plan, s'il doit un jour devenir effectif, il faudra que le budget de la France soit voté pour qu'il entre en vigueur. Donc il y a encore beaucoup d'incertitudes. Néanmoins, et ce sera ma première question, est-ce qu'il vous semble aujourd'hui couvrir l'ensemble des besoins calédoniens d'aujourd'hui? Est-ce qu'il vous semble prendre en compte les aspects les plus importants de la réalité économique calédonienne? Tony Dupré, tiens, pour commencer.
Honneur aux dames.
Non, allez-y, Tony.
Ce plan, il était attendu, hein, depuis longtemps, et partagé par les partenaires sociaux. Il fallait absolument un message fort de l'État qui nous parle maintenant plusieurs mois de choc de confiance, de relance économique indispensable. Donc ce plan était attendu. D'ailleurs, on l'a rappelé à la ministre lors de notre dernière rencontre au commissariat. Maintenant, on va quand même être prudent et attendre de voir ce qui va réellement être voté. Déjà, hein, puisque pour l'instant, on a ce projet, mais qui doit maintenant faire l'objet d'un vote au niveau de l'Assemblée nationale. Ensuite, il y a des thématiques qui nous intéressent fortement en termes d'emploi, hein, de relance économique. Hein, et par contre, concernant les finances publiques, il y a toujours, cette problématique du recours aux prêts. Encore une fois, là, on le voit, on le redoutait, et ça arrive encore. Ça nous consterne au bout d'un moment. Hein. On le sait, les difficultés. Je pense que maintenant, nos élus ont pris conscience que, de toute façon, cette aide qui peut répondre et doit répondre à l'urgence doit être conditionnée à des réformes que nos élus doivent prendre en compte aujourd'hui.
C'est contenu.
Donc, de repartir encore sur un prêt, on aurait clairement préféré avoir une subvention.
On va revenir sur cette question du prêt, bien évidemment. Marie-Amélie Molia, un plan qui vous semble suffisamment ambitieux par rapport aux attentes actuelles de l'économie calédonienne?
Alors déjà, comme le disait Tony, c'est quelque chose c'est un plan qu'on attendait. Donc déjà, il a le mérite d'exister. Il est perfectible à plus d'un titre. En effet, il faut aussi qu'il soit voté. Nous, on considère que c'est un brouillon, une base de travail qui va être amenée à évoluer. Alors, on l'espère avec les apports des acteurs économiques et sociaux. Voilà. Donc, dans un premier temps, il émane du haut vers le bas, donc de l'État vers la Nouvelle-Calédonie et donc les acteurs économiques et autres. Voilà. La question, c'est... alors, il est effectivement basé sur les travaux, c'est ce qu'on nous a expliqué, sur les travaux de la mission interministérielle. Voilà, pour l'instant, on n'a pas encore été consulté. Les travaux n'avaient pas été partagés, en tout cas, ces conclusions-là. Certaines propositions qui sont incluses dans ce plan de relance existent déjà. On parlait de défiscalisation sur les bâtiments qui ont été détruits avec l'élargissement à d'autres secteurs que l'industrie. Ça faisait déjà l'objet d'un engagement ministériel. Donc voilà, donc il y a d'autres sujets sur lesquels il va falloir qu'on travaille. Nous, on prend vraiment ça comme une base de travail, exactement.
Le timing de publication de ce document, alors que la mission ministérielle est toujours au travail, Mimsy Delay, ça vous a surpris?
Mais en fait, non, et comme mes collègues, on attendait en fait que l'État clarifie ses premières grandes priorités, et c'est ce que ce courrier et ce document fait. Sans rentrer vraiment dans les détails, mais au moins, il a le mérite déjà de reconnaître que la Nouvelle-Calédonie va avoir besoin d'un soutien financier massif. C'est quand même ce qu'on retrouve là-dedans. Alors, avec tous les guillemets qu'il faut mettre sur le projet de loi de finances et évidemment la validation de ce plan, il a le mérite de reconnaître aussi qu'on a un véritable problème d'attractivité et d'emploi privé. Bon, c'est l'axe numéro un. Donc nous, on milite, hein, très clairement pour la reprise de l'attractivité et du secteur privé en Nouvelle-Calédonie, qui sans ça, la Nouvelle-Calédonie ne pourra pas durablement reprendre. Évidemment, les finances des collectivités aussi, c'est très important. Le rapport de la Cour territoriale des comptes que vous venez d'évoquer montre une chose sur 2024, c'est 35 milliards de moins en investissement. Et ces 35 milliards, c'était quand même un des poumons de l'économie calédonienne. Et 11 milliards, en revanche, de frais de fonctionnement en plus. Donc l'équation, elle n'y est pas du tout. Et finalement, l'État pose un certain nombre de questions et attend des engagements sur l'autonomie financière de la Nouvelle-Calédonie, qui évidemment nous préoccupe malgré tout, parce que je suis d'accord, la question du prêt, on peut clairement se poser la question de la soutenabilité de ce prêt, mais surtout de la capacité de la Nouvelle-Calédonie, dans un délai très court, à devenir autonome financièrement sur des compétences qui sont extrêmement lourdes et qui sont aujourd'hui financées par l'État.
Voilà, les compétences au bout de 5 ans. Hein, le document indique qu'au bout de ce plan de relance...
On a beaucoup de questions à ce sujet. Je rappelle quand même que l'enseignement secondaire, les lycées, c'est 46 milliards de masse salariale qui sont aujourd'hui prises en charge par l'État, alors que c'est une compétence de la Nouvelle-Calédonie. Donc rien que ça, c'est un motif d'inquiétude, évidemment, même si la jeunesse fait partie des priorités de l'État et à juste titre.
D'où la notion des précisions qui devront être apportées à ce premier document. Jean-Marc Burette, vous, votre sentiment général sur ce plan, est-ce que, je le disais, il prend en charge déjà quand même pas mal de réalités de la vie économique calédonienne ?
Bah écoutez, sans faire de redites, hein, pour nous, ce pacte de relance, c'est une opportunité pour la Nouvelle-Calédonie et pour le territoire. Mais il doit, dans son ensemble, être corrigé, je pense, revu et complété, et surtout précisé. Il faut que ce plan puisse prévoir de répondre aux besoins immédiats des Calédoniens, des salariés et des entreprises. Mais il doit être aussi enrichi sur deux points importants pour nous, c'est les mesures sociales immédiates, voilà, qui n'est pas précisé dans ce document. On est plutôt sur du moyen et long terme. Et sur la capacité à réconcilier le social et l'économique, parce que c'était quand même une fragilité sur le territoire, et d'y associer, pour le coup, pleinement les salariés à travers la représentation économique et sociale qui a été définie par le soutien ministériel.
Alors on va évoquer plusieurs des points, parce qu'on sait que c'est le ministre l'a expliqué dans son courrier aux élus calédoniens, hein, c'est un plan qui repose sur 5 piliers, vous en avez évoqué certains, l'attractivité, les investissements structurants, la filière nickel, la lutte contre le décrochage scolaire et professionnel et le nouveau prêt garanti par l'État sont à peu près les 5 grandes thématiques de ce plan. Un mot sur l'attractivité, parce qu'on sait qu'aujourd'hui c'est un des problèmes qui plombe en quelque sorte la volonté de relance. 36 milliards de francs hein, mis sur le tapis pour cette attractivité. Ça vous semble bien ? C'est suffisant ? C'est vraiment un élément déclencheur pour vous, Mim Sidélé ? Ou... Cette fois-ci, Tony, je vais passer la parole à Mim Sidélé.
En fait, c'est là qu'on a aussi beaucoup de questions hein, sur la relance de l'attractivité. C'est vrai que le projet de zone franche présente un intérêt certain. Il va falloir voir avec l'État quels sont les contours précisément de tout cela, puisqu'il semble vouloir être très cadré sur ces zones franches. L'incitation fiscale via l'exonération de l'impôt sur les sociétés pour les petites entreprises, ça c'est une vraie mesure forte d'attractivité parce que déjà 90% des entreprises de Calédonie sont des petites entreprises elles ont aujourd'hui, elles nous le disent très largement, des très très fortes difficultés en matière de trésorerie et de liquidité. Donc cette mesure-là, elle va vraiment dans le sens d'une reconsolidation des fonds propres des entreprises et on en a véritablement besoin. Et c'est quelque chose qui sera de nature, à notre sens, d'attirer déjà des investisseurs, mais aussi de permettre à des entreprises à la fois de garder la tête hors de l'eau, mais peut-être aussi d'embaucher. Donc pour nous, ça c'est une mesure qui va dans le bon sens, mais qui mérite d'être précisé. Le problème, les 35 milliards, on n'a pas encore véritablement d'informations sur la façon dont ils vont se répartir. Mais en tout état de cause, que ce soit le premier point, c'est important pour nous. Oui.
C'est aussi pour vous, Tony Dupré ?
Enfin, nous, on mettrait un bémol. On n'est pas encore totalement convaincus. On n'a pas encore le... Il faudra rentrer dans le détail. Par exemple, sur l'exonération des impôts, on voit réellement ce que cela va...
L'impôt des sociétés.
C'était bien sûr. Hein, ce que cela va apporter en termes de renforcement de la compétitivité. Et surtout pour nous, parce que nous, le sujet majeur est là, c'est en termes d'emploi. Nous, c'est déjà préserver l'emploi, relancer les emplois. Donc, il faudra voir plus loin. Pour l'instant, voilà, En l'état actuel, c'est une mesure qui peut être intéressante, mais qu'il faudra cadrer.
Et qui doit rester transitoire,
selon transitoire, surtout, parce que nous, voilà, étant donné ce qui s'est passé, nous, à la COGETRA, maintenant, on refuse de tomber dans l'assistanat. On a connu une période compliquée, il a fallu recourir à des dispositifs grâce à l'État, type chômage partiel et compagnie. Aujourd'hui, si on propose des choses, forcément, c'est pour pérenniser l'emploi, notamment sortir l'emploi de sa précarité. C'est là-dessus que... Et c'est pour ça que nous, ce sera conditionné clairement à des contrats, à des objectifs précis, quantifiables dans le temps pour voir réellement si ces mesures ont été... si ces effets ont été positifs. Pareil sur les zones franches, nous, on met un gros bémol parce que... Et on est un peu surpris parce que, quelque part, ça va amener une concurrence hein, envers les entreprises qui sont déjà sur le territoire. Et parce qu'il faut rappeler ce que c'est. Hein, c'est un régime fiscal plus qu'attractif, hein, une zone franche. Hein, et on le verrait, par contre, positivement pour ce qui concerne l'export, par exemple. Donc là aussi, il faudra bien définir le périmètre. Et voir là aussi, parce que là aussi, il y a de l'emploi au jeu, hein, en termes de concurrence. Hein. Nous, on ramène toutes ces mesures-là, on ramène ça à l'emploi. Comment on relance l'emploi, comment on préserve l'emploi.
Jean-Marc Beret.
Bah écoutez, nous, on estime que c'est quand même une bonne trajectoire, hein, qui a, comme on l'a dit en préambule, tous, qui a besoin d'être précisée. Mais on est toujours sur un aspect économique. Nous, derrière, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait un aspect humain et social. Donc derrière, ça doit aussi amener des garanties que ça soit créateur d'emplois et non pas que de richesse, parce que la richesse, c'est aussi l'emploi, et que c'est important que ces garanties soient matérialisées. Un peu ce qui se fait dans les processus de défiscalisation qui n'a pas toujours été respecté, mais c'est, je rappelle, hein, pour sauver la Calédonie, c'est l'emploi avant tout. Et si on veut gagner en autonomie, c'est qu'on doit être sûr que ça doit créer de l'emploi. Donc ces mesures fortes financières doivent garantir le côté humain, le côté où on fait énormément d'emplois et ça ne doit pas juste servir à amener de l'économie. Quoi.
Créer ou recréer de l'emploi, on rappelle qu'il y a 14 000 emplois hein, qui ont été détruits dans le secteur privé depuis mai 2024. Alors, on va avancer sur les différents points parce qu'il y en a un autre qui est quand même extrêmement important, c'est les fameux investissements structurants. C'est une autre façon finalement de parler, Marie-Amélie Molia, de la diversification économique, c'est-à-dire de soutenir des filières qui aujourd'hui peinent à se développer, à se mettre en œuvre. Ça aussi, c'est une piste qui vous semble intéressante. Alors, est-ce que, comme sur les autres points, parce que j'ai l'impression que vous allez tous me dire ça sur tous les chapitres qu'on va évoquer, il va y avoir besoin de précision. C'est clair qu'aujourd'hui, on n'a qu'un premier jet qu'il va falloir préciser, mais au moins, est-ce que déjà ça va dans le bon sens et qu'est-ce que cette diversification de l'économie est vraiment un des objectifs de ce plan, selon vous ?
Je dirais même que c'est presque le cœur du sujet, puisque là, on parle très concrètement de création d'emplois et de filières. Aujourd'hui, il y a un travail qui est mené dans un des groupes de travail, justement, la mission interministérielle, sur les critères, sur la priorisation des filières de développement du territoire. Donc ça, clairement, on est dans le cœur du sujet, comme le rappelait Jean-Marc et Tony. C'est la création d'emplois qui va permettre de la relance, la consommation et la création de valeur ajoutée. Donc clairement, c'est le cœur du sujet. On peut parler d'autosuffisance alimentaire, donc on parle ici de pêche, de tourisme et d'agriculture, mais je pense qu'il faut aller encore plus loin. On en a parlé la semaine dernière lors de la semaine de l'industrie avec nos invités de l'ANIA sur les filières agroalimentaires qui découleraient de l'agriculture. Donc clairement pour nous, effectivement, c'est le cœur du sujet. Je le répète malgré tout, mais il va falloir préciser tout ça. Mais en tout cas, c'est pour nous le signal positif de ce plan de relance. Et le plus urgent à mettre en œuvre, et ce qui rapportera le plus rapidement de retombées.
Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, Tony Dupré, diversifier l'économie, c'est créer de nouvelles filières, c'est les structurer, ça veut dire là aussi permettre de l'emploi, mais c'est aussi assurer un développement possible de ces filières et créer le contexte économique pour ça ?
Tout à fait, tout en n'oubliant pas non plus qu'il faut absolument préserver notre filière nickel. Ça ne faut pas l'oublier, autant il est important de diversifier notre économie pour créer donc de nouvelles richesses, pour apporter là aussi de l'emploi. Mais le nickel reste un sujet majeur pour nous aussi. Hein.
Donc là, c'est peut-être celui qui est le moins développé, d'ailleurs, dans le plan de relance.
Et c'est pour ça que j'en parle. Il est le moins développé, alors qu'on sait que nos trois industriels ont besoin donc d'être relancés. Hein. Ça, pour nous, c'est donc, voilà. Amélie a raison sur le fait que... en termes au niveau industriel. Il y a pas mal de choses à faire. Mais n'oublions pas aussi nos fondamentaux historiques qui permettent aujourd'hui à la Calédonie d'être là où elle est.
Sachant que sur la filière nickel, même si d'aller, le point dur, c'est toujours la question du prix du coût de l'énergie.
Oui, c'est cette question-là. Et puis, c'est aussi notre capacité à exporter du minerai. Là aussi, le rapport de la Cour territoriale des comptes est accablant sur l'effondrement de nos exportations de minerai. Donc, on a la transformation, bien sûr, mais je veux dire, notre activité minière est en très grande souffrance. Dans le plan de l'État, on a quand même effectivement une précision qui est que le tourisme, la pêche, l'agriculture, la transition énergétique et le nickel sont véritablement les filières à développer. Ça, c'est une bonne chose. Le tourisme, je voudrais revenir dessus aussi parce que, au-delà des investissements dans les infrastructures, c'est la promotion touristique qui, à notre sens, en tout cas, c'est un point qu'on souligne vivement dans les travaux. La promotion touristique de la Nouvelle-Calédonie, c'est une de nos grosses priorités parce qu'on considère que cette filière, ce sera probablement la première à être très réactive en matière d'emploi et de retombées économiques pour le territoire. Aujourd'hui, on ne va pas se voiler la face, nos performances en tourisme sont évidemment très insuffisantes, on a un potentiel qui est fort. En revanche, ce qui est constant, c'est que les investissements en matière de promotion touristique de la Nouvelle-Calédonie sont très faibles par rapport notamment à la Polynésie française ou d'autres territoires du Pacifique. Donc, il n'y a pas 36 choses à faire, on ne va pas construire tout de suite de nouveaux hôtels, mais en revanche, on peut considérablement améliorer la promotion de la destination. Et pour nous, c'est quelque chose sur lequel on travaille avec le gouvernement et l'État parce que c'est extrêmement urgent.
Jean-Marc Burette, sur cette question de la diversification et du dossier nickel.
C'est des choses qu'on a portées à l'USMEC et qui ont été partagées par tous les partenaires autour de la table. Et ça permet aussi que tout le monde s'y retrouve, notamment le développement en terre coutumière, qui est un sujet extrêmement important. Mais je pense qu'on est sur du moyen et long terme. Nous, aujourd'hui, ce qu'on constate, et c'est là où je suis un petit peu déçu de ce plan, c'est qu'on assiste tous les jours à des destructions d'emplois, des familles qui se retrouvent en difficulté, des entreprises qui ferment, des entreprises qui ont joué le jeu et qui maintenant se retrouvent à bout de souffle et en bout de trésorerie. Et on n'a pas la réponse immédiate pour relever ces défis. Le nickel est en berne. La SLN est en survie permanente. De semaine en semaine, elle ne sait pas de quoi demain sera fait. Une usine qui a fermé, l'usine du Sud qui cherche repreneur, le BTP qui est en faillite, le commerce qui va mal, toutes les filières sont en berne. Donc ce plan-là, il est ambitieux, il est généreux. Ça donne le vertige, c'est des sommes qui donnent le vertige.
264 milliards.
Donc on ne va pas nier quand même que l'État fait un effort
n'est pas encore comptabilisé.
Conséquent. Même s'il a besoin d'être précisé, et même si tu ne voulais pas qu'on le redit, mais nous on n'est pas du tout contents parce que les contours, on ne se retrouve pas. Et on n'est pas sûr d'être associé. On ne voudrait pas que ça devienne un sujet que politique ou économique. Donc, et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, les familles ont besoin de travailler, ont besoin de se nourrir, ont besoin de se loger. Et on est tous inscrits dans des ateliers à répétition, des multitudes d'ateliers. Et dans l'intention, parce que c'est quand même un pacte d'intention pour le moment, on aurait bien voulu retrouver l'effort que l'État aurait pu faire pour accompagner les familles qui sont en difficulté actuellement.
Denis Dupré.
Je disais, je rejoins totalement Jean-Marc là-dessus. On est tous engagés dans ces groupes de travail où des thématiques ont été fixées. Et on se rend compte que nous, quand on nous questionne, et nous, quand on questionne nos gens, nos adhérents, ou même la population, les retraités, c'est aujourd'hui, je pense à l'atelier vie citoyenne. Se loger, se transporter, se nourrir, se soigner. Nous, aujourd'hui, c'est l'urgence. C'est aujourd'hui comment on répond aux besoins de la population, de salariés, on ne le retrouve pas pour l'instant. Et ça, c'est important. C'est important. Se transporter, c'est pareil. On le disait, nous, la priorité, par exemple, en matière de transport, c'est de faire en sorte que le réseau Tanéo de la province sud redémarre en 2026, qu'on retrouve un véritable service public. Pourquoi ? Parce qu'à l'heure actuelle, depuis un an maintenant, nos salariés et la population en général sont fortement pénalisés. Les gens ne peuvent pas aller au travail ou sont en retard. Et pareil, ça a été une des causes principales de la déscolarisation. Donc en matière de transport, et là on interpelle l'État pour qu'il en fasse plus. On ne peut pas concevoir de redémarrer en 2026 avec un service public.
Mais ça veut dire passer par un soutien aux collectivités, alors.
Tout à fait, mais je pense que je ne veux pas accabler la province sud. La province sud, hier, on était sur ce groupe transport. Elle a un plan de relance elle-même là-dessus, pour relancer son réseau TANEO, mais qui prendra du temps, elle nous l'a dit. C'est sur 3 ans. Mais je remarque la raison. Aujourd'hui, là, dans les médias, qu'est-ce qu'on fait à court terme? Et c'est là où on est déçus, on est fortement déçus à ce niveau-là. C'est que on travaille beaucoup, on s'inscrit dans cette démarche positive, mais on ne répond pas aux besoins urgents actuels dans tous les domaines.
Jean-Marc Burette.
Moi, ce que j'aurais voulu dans ce plan, c'est un vœu, hein. C'est bientôt Noël, donc on peut se permettre.
Hein. Espérant qu'il ne sera pas pu.
Voilà. Au même titre qu'il s'engage à regarder comment accompagner la filière nickel dans cette période de transition, j'aurais aimé et souhaité qu'on puisse accompagner les difficultés sociales pendant cette période de réforme et de transition. Et c'est des choses qu'on réclame et qu'on revendique depuis plus d'un an. Et ça ne transpire pas dans ce plan. Aujourd'hui, les Calédoniens, qu'est-ce qu'ils veulent? Ça, c'est un plan de consolidation pour arriver à une autonomie en 2030, soi-disant. Ce n'est pas un plan d'urgence.
Donc, si je vous entends bien, c'est aussi une question de timing et de nécessité de lancer les bons chantiers au bon moment.
Reprends les propos de la ministre, c'est le temps institutionnel n'est pas le temps social. Et le temps social, il est où là-dedans?
Et donc, pour vous, ce plan est déjà presque trop loin par rapport aux nécessités calédoniennes du moment.
Je le dis.
Même si délai.
Ce qui est certain, c'est que le message qu'on remonte aussi dans les groupes de travail, c'est que l'année 2026, c'est cette année-là sur laquelle on a besoin de visibilité très, très concrète, en fait. Hein. Je rejoins mes collègues dans le sens où maintenant, alors on espère vraiment que le PLF sera rapidement adopté, parce qu'on est soumis à tout cela, mais on a besoin d'informations sur un certain nombre de travaux publics qui sont à l'arrêt, donc des dossiers qui sont prêts à être lancés, mais pour lesquels on va avoir besoin d'une rallonge de l'État pour que les collectivités puissent les mener à bien. J'ai évoqué la filière tourisme. On a également des sujets sur les retraites, très clairement, les retraites du secteur privé. En dépit même des efforts de réforme qu'on va faire, hein, on sait tous qu'il va falloir réformer notre système de retraite, mais au-delà de ça, il y aura besoin d'une aide de l'État dès l'année prochaine pour maintenir à flot notre système de retraite, même si on fait des efforts conséquents sur le financement du régime. Donc, toutes ces questions-là, elles sont, je dirais, on est fin décembre presque, elles sont très urgentes. Et c'est vrai qu'on a besoin aujourd'hui, évidemment, de cette visibilité jusqu'à 2030, c'est bien, mais on a besoin de savoir comment on va passer 2026.
Marie-Amélie Molia, sur ce timing de mise en œuvre de ce plan.
Oui, je suis parfaitement alignée avec Mipsy et Jean-Marc. Effectivement, l'urgence, on aurait aimé ce plan-là il y a un an. La vie est ainsi faite, donc on va faire avec. Mais effectivement, l'urgence est un peu oubliée, l'urgence de l'instant présent. Avec le calendrier électoral de 2026 qui s'annonce, on sait que les années électorales sont toujours des années compliquées sur les réformes d'envergure et les urgences à traiter. Donc voilà, donc effectivement, quand même pas mal d'inquiétudes sur l'urgence à traiter actuellement.
Le timing, on le rappelle, hein, c'est que c'est pour que ce plan puisse être retravaillé, approfondi, précisé, etc. Il faut déjà que le budget de la France soit voté d'ici la fin de l'année. Sinon, on ne sait pas trop comment les choses vont s'enclencher derrière. C'est un peu comme l'avenir institutionnel. Il n'y a pas trop de plan B pour l'instant. Denis Dupré.
Oui, pour compléter les propos de Mimsy, elle parlait à juste titre des retraites, hein, où on travaille dessus. Hein, il ne faut pas croire. Il y a une commission qui a été mise en place. Oui. Les travaux sont en cours. Des propositions ont déjà été faites, hein, notamment au sein de la mission interministérielle. Mais il y a également le RUAM. Les deux piliers en termes budgétaires qu'il faudra régler en 2026, c'est le RUAM et les retraites. Et le RUAM, on le rappelle, la loi a été votée. Elle a fait l'objet ensuite d'une motion préjudicielle. Donc, il reste les délibérations à voter, notamment pour fixer les taux. Mais là aussi, on fera on trouvera donc les équilibres pour une réforme structurelle, mais derrière, dans l'immédiat, il nous faut une aide. Parce que là, à l'instant où on se parle, mais les trous se creusent, hein, ça c'est factuel. Donc redémarrer de manière saine, ça veut d'abord assainir la situation.
Un mot quand même sur l'un des aspects de ce plan, parce que je pense qu'il fera consensus, c'est la fameuse aide pour le décrochage scolaire et professionnel, c'est-à-dire ce programme d'accompagnement de la jeunesse pour éviter qu'elle se perde en route, qu'elle n'échappe aux formations qui seront les formations nécessaires pour reconstruire ou pour développer les nouvelles filières. Ça, c'est un point, j'imagine, que, sur lequel vous êtes à peu près tous satisfaits, Jean-Marc Burette ?
C'est une demande forte de s'occuper de la jeunesse et de la formation. Donc, effectivement, on a demandé à ce que les besoins soient fléchés en termes de formation et non pas faire des formations standards comme on peut trouver parce que c'est le cursus qui l'impose. Donc, à un moment donné, on aura des besoins nouveaux qu'il faut anticiper. D'ailleurs, si on dit qu'on développe la filière tourisme, il va bien falloir des personnes qui soient formées au tourisme, etc., etc.
Il y en a déjà un certain nombre.
Voilà. Et cette aide est bienvenue et elle est bien fléchée. Donc nous, on est plutôt très favorable à ce qu'elle se mette en place très rapidement. Mais comme tu le disais tout à l'heure, on est dans une instabilité politique dans l'Hexagone et sur le territoire. Donc tout ça, c'est de l'intention. Mais nous, ça ne doit pas nous empêcher, le monde économique et social, d'avancer sur nos propositions et d'être force de proposition. Et ce qu'on fait au travers du travail qu'on fournit. Moi, je ne suis pas collègue avec Mimsy, hein. Je suis plutôt en partenariat avec elle dans les réflexions. Je commence à être mes collègues avec le MEDEF, ça va être compliqué pour moi, hein, mais bon, c'était juste pour
taquiner un peu. C'est une période de crise, donc tout est possible en période de crise.
C'est bientôt
Noël. Vous pourrez vous déchirer quand les choses iront mieux. Ouais. Mimsy Délay sur cet accompagnement des jeunes.
Mais il est incontournable. Nous, on en a fait une de nos priorités au MEDEF, et notamment sur l'entrepreneuriat. Et donc, on est content de voir que, à la fois sur le financement des micro-projets, mais aussi l'encadrement de la jeunesse, il y a quand même une priorité qui semble mise. L'extension du dispositif du SMA est évidemment une très très bonne nouvelle. Nous, on se félicite tous les jours en fait du succès, hein, du SMA. Sur la création d'entreprises, on est très clair, les entreprises ne seront pas en capacité rapidement de recréer 14 000 emplois en Nouvelle-Calédonie. C'est une perspective qui va s'étaler sur plusieurs années. Donc l'initiative privée, l'accompagnement des jeunes à la création de projets d'entreprises, c'est quelque chose qui va être très important. On s'y engage, nous, via le mentorat, via des initiatives comme la caravane de l'entreprise avec le lycée Jules Garnier, pour expliquer l'entreprise aux jeunes qui souvent la connaissent très très mal et effectivement... n'ose pas se lancer dans l'initiative et l'entreprise individuelle. Et ça, pour nous, c'est un véritable relais, en effet, pour la jeunesse, qui donnera du sens, très probablement, à la relance économique.
Alors, j'aimerais terminer en abordant un point que vous avez déjà évoqué lorsque vous avez introduit le sujet. C'est la fameuse question du nouveau PGE, le prêt garanti par l'État, qui fait évidemment beaucoup réagir. Mais finalement, la question que j'ai envie de vous poser, c'est: est-ce que le gouvernement n'a pas d'autre choix que de proposer un prêt garanti en disant: on verra évidemment dans le temps si il ne se transformera pas en subvention petit à petit, mais il faut quand même le quantifier. On ne donne pas de l'argent comme ça en blanc-seing. Il faut accompagner un certain nombre de réformes. Est-ce qu'il finalement, il n'y avait pas d'autre choix que d'annoncer un prêt garanti par l'État plutôt qu'une subvention sèche et brute, Tony Dupré, et que les choses vont forcément dans le temps se lisser?
Jean-François, la manière dont c'est écrit déjà, on nous dit que donc c'est un prêt garanti, et on précise que peut-être une partie pourrait être transformée en subvention. C'est toujours ce peut-être qui nous gêne, nous. Parce que ce peut-être, il sera peut-être encore soumis à des réformes.
Mais les réformes, elles vont se faire.
Ouais, puisque... mais on l'a vu dans un passé récent, que des réformes dans l'urgence, c'est pas ça non plus, quoi. Donc là, nous, on est très sceptiques à ce niveau-là. Ça demande à être clarifié, mais repartir encore sur un prêt garanti, quand on connaît le taux d'endettement qu'on subit déjà, et on n'a pas les moyens actuellement, donc. Et ça rassure pas quelque part. En termes de finances publiques, c'est pas rassurant. Il faut là un message plus clair que ça de la part d'État. Il faut au bout d'un moment un pacte de confiance. Vous faites les réformes, nous on s'engage financièrement, mais on ne peut pas constamment... on a l'impression que, voilà, à chaque fois, il y a ce côté-là. Vous serez des bons élèves, on verra ce qu'on pourra faire.
La carotte et le bâton.
Voilà, mais il n'y a pas de dire, voilà, il y a ce prêt, mais derrière, sans condition, il y aura donc ce prêt ou une partie transformée en subvention. Nous, on préférait la totalité, bien sûr.
Marie-Amélie Molia, sur ce point-là.
Oui, effectivement, les prêts garantis État, ça ne fait que nous enfoncer encore plus sur le long terme. Les appeler des réformes. Donc, même s'il a rappelé en introduction qu'il y avait quand même de fortes opportunités à saisir sur les économies du fonctionnement de la Nouvelle-Calédonie et de ses institutions. Donc ça, c'est quelque chose qui est attendu par tous et qu'on rappelle, je pense, très régulièrement. Et le risque de réforme, c'est toujours, on a toujours l'épée de Damoclès de la fiscalité au-dessus de la tête qui semble toujours être la solution rapide quand les délais sont contraints. Donc c'est forcément une inquiétude.
Quel type de réforme, c'est vrai. Jean-Marc
Guéret. Moi, je suis très clair sur le sujet. On appelle à la solidarité nationale. Je pense qu'on résume notre position sur le sujet pour deux raisons. Aujourd'hui, on nous demande de travailler sur des réformes, mais ces réformes devront tenir compte de l'endettement de la Nouvelle-Calédonie. Et donc, la hauteur de la réforme va être calée par rapport, justement, à l'endettement de la Nouvelle-Calédonie. Et toute la fiscalité, tout le poids sur les entreprises et sur les consommateurs, sur les salariés, dépendra de ça. Donc, ce chantage, moi j'appelle ça ce chantage, de dire « on verra plus tard si vous êtes gentil politiquement, etc. », n'arrange pas le social et l'économique.
Chantage ou prudence, Mimsidele ?
Je dirais que c'est sûr que la façon dont c'est présenté manque de subtilité, mais quelque part, l'État, tout comme les entreprises, a besoin de visibilité. C'est-à-dire qu'on parle d'investissement. On voit bien les difficultés pour l'État d'arriver à un budget pour la nation. Actuellement, à l'Assemblée nationale, ce qui se passe, c'est quand même relativement inquiétant. La question, effectivement, c'est, je pense qu'il y a un véritable besoin de cap et de visibilité. Nous, on rejoint ça. Le prêt, je suis d'accord, c'est quelque chose qui est extrêmement lourd. En revanche, le fait de mettre quelque part un besoin de visibilité, un besoin d'engagement sur le cap ne me choque pas dans la mesure où nous l'attendons nous aussi, c'est-à-dire qu'on a besoin de visibilité politique, on a besoin de visibilité sur la façon dont la Nouvelle-Calédonie va se réformer pour réduire son train de vie et ses dépenses, parce qu'on l'a redit, pour nous c'est aussi quelque chose qui handicape considérablement notre économie. Mais derrière, effectivement, il faut que l'État soit là financièrement pour accompagner les collectivités, mais on le dit nous, sur l'investissement et avec un cap qui soit quand même clarifié. On en a besoin, nous aussi.
Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir réagi sur ce plan de relance proposé par le Premier ministre Sébastien Lecornu, qui a, si j'ai bien compris, le mérite d'exister, dont on espère qu'il va pouvoir réellement exister et qui pourra être aussi amendé et précisé. C'est ce qui devrait se passer dans les semaines qui viennent. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Et merci. Évidemment, elle sera disponible pour ceux qui le souhaitent en réécoute sur notre site internet rrb.nc. Bon après-midi à tous.
Merci.
Bon après-midi.
C'était les Jeudis de l'économie, Radio Rythme Bleu.
Et merci à Jean-François Baudin.